où il est dit « Que devons-nous faire pour accomplir les œuvres que Dieu attend de nous ?» Ce sont les interlocuteurs de Jésus qui ont posé cette question. Que devons-nous faire pour accomplir les œuvres que Dieu attend de nous ? Alors, lors de mon dernier message où j'avais commenté le chapitre 6 de l'évangile de Jean, en tout cas une partie, les versets 22 à 71, j'avais essayé de mettre en évidence le mécanisme, entre guillemets, divin du salut, tel que Jésus l'explique dans ce long discours. À la fin de mon message, j'avais projeté les principales paroles de Jésus qui énoncent ce mécanisme. Chantal m'a dit, après le culte, que c'était vraiment pas clair. Les prédicateurs n'ont pas de meilleure critique que leurs épouses. On est au moins sûr qu'il n'y a pas de flatterie. Alors, je vais revenir sur ce long discours, elle n'est pas là pour l'écouter, mais tant pis, sur ce long discours de Jésus, et je vais essayer d'exposer plus clairement ce qu'il a enseigné au fil de cette polémique avec ses interlocuteurs. Alors j'espère que vous avez encore bien en tête ce chapitre 6 de Jean, parce qu'on ne va pas tout le relire. Hein. Je resitue le contexte. Jean, dans ce chapitre 6 de son évangile, nous rapporte le miracle de la multiplication des pains, où Jésus a nourri probablement au moins 10 000 personnes. À la suite de ce signe miracle extraordinaire, les gens partent à sa recherche. Finalement, ils le trouvent de l'autre côté du lac. On relit donc les versets, quelques versets. Verset 25. Ils le trouvèrent de l'autre côté du lac et lui demandèrent « Maître, quand es-tu venu ici ?» Verset 26. Jésus leur répondit « Vraiment, je vous l'assure, si vous me cherchez, ce n'est pas parce que vous avez compris le sens de mes signes miraculeux, non. C'est parce que vous avez mangé du pain et que vous avez été rassasiés. » Donc Jésus dénonce d'emblée ce que ces foules recherchent en réalité. Un bénéfice matériel. En l'occurrence, le fait d'avoir été nourri gratuitement et abondamment lors de la multiplication des pains. N'oublions pas que ces mêmes foules avaient voulu le faire roi à la suite de ce miracle. Et que Jésus s'était esquivé. Jésus met ainsi le doigt sur les aspirations humaines naturelles. La recherche d'un leader politique qui assure la prospérité matérielle de son peuple. Mais cela n'est pas du tout le sens de la mission de Jésus envers son peuple et envers l'humanité en général. Alors il leur dit, verset 27, travaillez non pour la nourriture périssable, mais pour celle qui dure pour la vie éternelle. Cette nourriture, c'est le Fils de l'homme qui vous la donnera, car Dieu le Père lui en a accordé le pouvoir en le marquant de son sceau. Depuis la chute de Genèse 3, les hommes doivent gagner leur pain à la sueur de leur front. Mais Jésus semble suggérer que ce travail, bien qu'indispensable dans ce monde déchu, n'est pas une fin en soi. Il y a mieux. Travailler pour une nourriture qui ne périt pas, mais qui dure pour la vie éternelle. Et cette nourriture, c'est le Fils de l'homme qui la donnera, parce que le Père lui en a accordé le pouvoir et l'a même désigné, scellé pour cela. Alors, Jésus a parlé de travailler pour cette nourriture. Alors aussitôt, verset 28, ses interlocuteurs lui posent la question « Et que devons-nous faire pour accomplir les œuvres que Dieu attend de nous ?» Travailler et œuvre, c'est le même mot hein, dans l'original. En d'autres termes, quel travail devons-nous faire pour plaire à Dieu et obtenir ainsi ses bénédictions matérielles ? Cette question est celle de toute l'humanité religieuse depuis l'aube de l'humanité. Quelles œuvres Dieu attend-il de nous pour obtenir sa faveur et bénéficier en retour de bénédictions matérielles ? Alors, verset 29, Jésus leur répond : l'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez en celui qui l'a envoyé. Cette réponse ne les satisfait pas du tout. Et d'ailleurs, ils manifestent tout de suite leur incrédulité en demandant de nouveaux miracles pour croire en lui. C'est le verset 30. Quel signe miraculeux nous feras-tu voir pour que nous puissions croire en toi ? Et pourtant, cette réponse de Jésus est la question fondamentale qui se pose à tout homme. La seule œuvre qui soit demandée à l'homme, c'est de croire en Jésus, l'envoyé du Père. Toutes les religions du monde cherchent à satisfaire la divinité qu'elles révèrent par des œuvres humaines, des sacrifices, des offrandes, la construction de sanctuaires, l'observance de rites cultuels, etc. Toutes ces religions conduisent les hommes dans une impasse, car une seule chose leur est demandée, c'est de croire en celui que le Père, le Dieu unique, a envoyé dans ce monde. Alors la polémique entre Jésus et ses interlocuteurs continue. Ils mettent en avant les miracles dont leur peuple a bénéficié autrefois, et notamment le don par Dieu de la manne, qui a nourri leurs ancêtres durant la traversée du désert, ce dont ils sont très fiers. Jésus leur fait remarquer que cela ne les a pas empêchés de tous mourir dans le désert. Alors que le pain que lui propose, c'est lui-même, et que ce pain-là donne la vie au monde. D'ailleurs, Jésus a dit intentionnellement « au monde », c'est-à-dire pas seulement aux Israélites. Alors ses interlocuteurs lui réclament ce pain-là, verset 34, « Seigneur, dirent-ils, donne-nous toujours ce pain-là. » Mais il y a là un énorme malentendu de la part des interlocuteurs de Jésus. Ils s'attendent à un pain, une nourriture matérielle, alors que Jésus parle d'une nourriture spirituelle vivifiante. Verset 35, Jésus répondit, « Moi, je suis le pain qui donne la vie. Celui qui vient à moi n'aura plus jamais faim, celui qui croit en moi n'aura plus jamais soif. Mais je vous l'ai déjà dit, vous avez vu et vous ne croyez pas. » C'est bien là le nœud du problème. Vous avez vu l'évidence de la puissance et de la grâce de Dieu manifestée à travers son Fils, et pourtant, vous ne croyez pas en lui. Alors Jésus va exposer le projet de salut de Dieu pour l'humanité au travers de ce discours. Un discours qui est vraiment une partie hard. Verset 37. Il leur dit, « Tous ceux que le Père me donne viendront à moi, et je ne repousserai pas celui qui vient à moi. » Verset 44. « Personne ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire, et moi je le ressusciterai au dernier jour. » 45. Dans les écrits des prophètes, vous pouvez lire cette parole, « Dieu les instruira tous. » Là, Jésus cite Ésaïe 54, verset 13. « Tout homme qui écoute la voix du Père et qui est instruit par lui vient à moi. » Verset 46. « Personne n'a jamais vu le Père, sauf celui qui est venu d'auprès de Dieu. Lui, il a vu le Père. » Verset 47. « Vraiment, je vous l'assure, celui qui croit a la vie éternelle, car je suis le pain qui donne la vie. » Verset 57, là on fait un grand saut. « Le Père qui m'a envoyé a la vie en lui-même, et c'est lui qui me fait vivre. Ainsi, celui qui se nourrit de moi vivra lui aussi par moi. » Ainsi sont énoncés par Jésus dans ce passage les principes de la rédemption, c'est-à-dire du rachat de l'humanité perdue, loin de son Créateur, du fait de sa chute, du fait de son péché. Donc le premier point, c'est que le Père instruit tout homme. C'est ce verset 45 où Jésus cite Ésaïe 54. Le Père instruit tout homme. Comment Dieu instruit-il tout homme? Eh bien, par un triple témoignage qui le rend inexcusable de ne pas croire. Le premier témoignage, c'est la création. L'apôtre Paul l'explique en Romains 1, versets 18 à 21. L'apôtre Paul dit « Ils n'ont aucune excuse, dit Paul, car alors qu'ils connaissent Dieu, ils ne lui rendent pas l'honneur qui lui est dû. » À l'époque de l'apôtre Paul, les hommes préféraient honorer des idoles que le Dieu vivant. De nos jours, on honore la mère nature, car on ne veut surtout pas honorer le Créateur. On honore les sciences, les arts, la philosophie. Bref, l'humanité s'adore elle-même. Deuxième témoignage, celui de la conscience. C'est encore Paul qui en parle. En Romains 2, versets 14 et 15. Les païens, qui n'ont pas la parole écrite de Dieu, démontrent par leur comportement que les œuvres demandées par la loi de Dieu, sont inscrites dans leur cœur. Leur conscience en témoigne également, ainsi que les raisonnements par lesquels ils s'accusent ou s'excusent les uns les autres. Paul veut dire que tout homme a une conscience qui a notion de l'existence du Créateur et qui sait ce qui lui plaît et ce qui ne lui plaît pas, ce qui est bien et ce qui est mal. Troisième témoignage, bien sûr, c'est la parole écrite de Dieu, donnée initialement au peuple d'Israël et diffusée ensuite au monde entier, c'est-à-dire la Bible. Ainsi, Dieu instruit tout homme et l'attire à lui. La seule œuvre demandée à l'homme est de croire suite à cette instruction divine. Ensuite, le Père donne ces personnes à son Fils. Verset 37, « Tous ceux que le Père me donne viendront à moi et je ne repousserai pas celui qui vient à moi. » Le Fils accueille ceux qui ont accepté l'instruction du Père et que le Père lui donne. Le Fils non seulement accueille, mais garde de façon parfaite ceux qui lui sont ainsi confiés par le Père. C'est le verset 39. Or, celui qui m'a envoyé veut que je ne perde aucun de ceux qu'il m'a donné, mais que je les ressuscite au dernier jour. Un peu plus loin, dans l'évangile de Jean, au chapitre 10, verset 27, Jésus dira « Mes brebis écoutent ma voix, je les connais et elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle, jamais elles ne périront et personne ne pourra les arracher de ma main. » Verset 29 « Mon Père qui me les a donnés est plus grand que tous et personne ne peut arracher qui que ce soit de la main de mon Père. » Et le terme de tout ce processus, c'est la résurrection de ces personnes qui sera opéré par Jésus lui-même, verset 40. Oui, telle est la volonté de mon Père, que tous ceux qui tournent leur regard vers le Fils et qui croient en lui possèdent la vie éternelle, et moi, je les ressusciterai au dernier jour. Alors, Jésus va dire la même chose à Marthe, en Jean 11, alors qu'il s'apprête à ressusciter son frère Lazare, Jean 11, verset 25. Jésus dit à Marthe, « Moi, je suis la résurrection et la vie. Celui qui place toute sa confiance en moi vivra même s'il meurt. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela ?» Voilà la question que Jésus a posée à Marthe, qui venait de perdre son frère. Et Jésus attestera la vérité qu'il vient d'énoncer par un miracle inouï, la résurrection d'un mort qui était dans la tombe depuis 4 jours. Ainsi, celui qui croit possède la vie éternelle, la vraie vie, la vie avec Dieu. Et cette vie ne sera pas même interrompue par la mort physique. C'est ainsi que Jésus a décrit l'économie divine du salut dans cette discussion très polémique avec ses interlocuteurs de Jean 6, qui étaient probablement ceux de la synagogue de Capernaum. « Je vous l'ai déjà dit, dit Jésus, vous avez vu et vous ne croyez pas. » Ils avaient vu le signe miracle de la multiplication des pains qui attestait tant de la puissance du créateur de Jésus, l'envoyé de Dieu, que de sa grâce qui offre le pain de vie à une humanité morte dans son péché. Et pourtant, vous ne croyez pas. Combien il est triste et même tragique de refuser la seule nourriture qui procure la vie, la seule boisson qui étanche la soif spirituelle de tout homme. Verset 35. « Moi, je suis le pain qui donne la vie. Celui qui vient à moi n'aura plus jamais faim. Celui qui croit en moi n'aura plus jamais soif. » Cette parole de Dieu est encore adressée aujourd'hui à tout homme qui a faim et soif de ce qui seul peut apaiser et désaltérer son âme. Aujourd'hui encore, la bonne nouvelle de la grâce de Dieu est proclamée pour qu'elle soit entendue et crue par tout homme qui veut bien se laisser instruire par Dieu comme nous l'avons vu. Il est dramatique de résister aux sollicitations de la grâce de Dieu. L'humanité déchue est promise au juste jugement de Dieu et à subir sa colère. Écoutons les paroles de quelques prophètes qui évoque le jour de la colère de l'Éternel. Par exemple, Malachie, chapitre 3, verset 2. Mais qui supportera le jour de sa venue? Ou qui tiendra quand il apparaîtra? Joël 2, verset 11. Le jour de l'Éternel est grand et terrible à l'extrême. Qui pourra l'endurer? Le même apôtre Jean, qui a écrit cet évangile, dont nous venons de lire une portion, voit les choses comme déjà arrivées dans sa prophétie d'Apocalypse 6, verset 17. Car le jour de leur colère est arrivé, il s'agit de la colère du Père et de l'agneau. Et Jean pose la même question. Qui pourra subsister? Qui supportera le jour de sa venue? Qui tiendra quand il apparaîtra? Qui pourra endurer le jour de la colère de l'Éternel? Qui pourra subsister? La réponse est évidente. Personne de tous ceux qui ont refusé l'évangile de la grâce de Dieu qui leur était proposé durant leur vie parce qu'ils l'ont refusé. Au nom du Christ, nous vous en supplions, soyez réconciliés avec Dieu. Ça, c'est l'apôtre Paul qui a dit ça. Hein?